sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs, Mesdames, les académiciens, chers amis et collègues. Merci de votre invitation et de votre accueil. Alors, mon exposé concerne les origines anciennes des conflits interminables entre les sunnites, c'est-à-dire branche majoritaire de l'islam, à peu près 1,3 milliard de fidèles, et les chiites, branche minoritaire, à peu près 250 millions de fidèles. Conflits qui ont pris ces dernières années, comme on le sait, une tournure tragique un peu partout dans les pays de l'Orient musulman. Mon exposé comprend trois parties. Violence et écriture au début de l'islam. Deuxièmement, quelques textes étudiés. Troisièmement, la prise en compte nécessaire des sources chiites pour une meilleure compréhension de l'histoire de l'islam, surtout à ses débuts. Alors, je crois que vous avez un exemplier, vous avez le résumé de mon exposé, et puis quelques noms communs et quelques titres d'ouvrages qui, comme ils sont en arabe, donc il vous serait plus facile de suivre mon exposé en ayant cet exemplier. D'abord, violence et écriture au début de l'islam. Ces dernières années, j'ai étudié une problématique qui, malgré son évidence, ne semble pas avoir été suffisamment étudiée. L'articulation entre l'élaboration du Coran et les violences fratricides et guerres civiles qui ont marqué les premiers siècles de cette religion. Deux faits majeurs, indissolublement liés, qui auraient déterminé les évolutions historiques et spirituelles de l'islam, peut-être jusqu'à nos jours. Par ailleurs, une partie de cette étude constitue la substance de mon dernier ouvrage monographique paru en 2012 et intitulé « Le Coran silencieux et le Coran parlant, source scripturaire de l'islam entre histoire et ferveur » paru aux éditions du CNRS. Pour ce qui est des sources scripturaires, selon la tradition sunnite qui finit par être considérée comme « orthodoxe », entre guillemets, les choses se sont déroulées assez simplement. Les révélations divines, très fidèlement et intégralement recueillies par les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, furent réunis en un Coran unique par une commission de savants sous le règne du troisième calife, Osman, vous avez ces noms-là sur l'exemplier, Osman qui régna de 23 de l'Égir à 35, c'est-à-dire 644 à 656 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire moins de 30 ans après la mort du prophète Mohammed. Les recensions coraniques parallèles, jugées indignes de confiance, furent détruites et la version officielle appelée la Vulgate d'Osman, donc du nom de ce calife, fut très vite acceptée par toute la communauté des fidèles, sauf une poignée d'hérétiques. Or, la recherche critique, soumettant les sources islamiques et non islamiques de toutes sortes à l'examen historique et philologique depuis plus d'un siècle et demi, offre de l'histoire du Coran un tableau beaucoup plus complexe. Un corpus important de propos remontant à Mohammed aurait été très progressivement distingué en Coran et en Hadith, c'est-à-dire identifié respectivement comme parole de Dieu et tradition prophétique. Le Coran officiel, mis a posteriori sous le patronage de Osman, aurait en fait été établi plus tard, probablement sous le califat de l'Omeyyad Abdelmalek, qui régna de 685 à 705. Il présente en outre tous les signes d'un long travail rédactionnel effectué probablement au sein d'une équipe de scribes et de lettrés patentés. Quelques décennies seulement séparent le temps des deux califes, mais ces dizaines d'années comptent qu'en plusieurs siècles, tant entre les deux époques, les incalculables conséquences d'incessantes guerres civiles et d'immenses et fulgurantes conquêtes ont bouleversé l'histoire, la société et les mentalités des premiers musulmans. Par ailleurs, même élaborée et déclarée officielle, la Vulgate étatique mit plusieurs siècles pour être accepté par tous les musulmans. Parmi les savants et les courants opposés à l'État omeyyade, nombre de personnages importants n'auraient pas accepté l'authenticité de ce Coran ousmanien et l'auraient considéré comme une version falsifiée des révélations faites au prophète. Parmi ceux-là, les chiites formulent les critiques les plus systématiques et les plus nombreuses à l'égard de l'intégrité du Coran officiel. D'autres recensions coraniques, parfois très différentes dans leur forme et leur contenu, comme par exemple celle de Ali, cousin germain et gendre du prophète, et premier imam des chiites, et quatrième calife, ou encore les recensions des compagnons Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b continuèrent ainsi à circuler au moins jusqu'au 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 10e de l'ère commune. Quant à la violence endémique dans laquelle naquit et se développe l'islam, il suffit de rappeler quelques faits historiques qui paraissent avérés dans leurs grandes lignes. Dès après l'Hégire, les dernières années de la vie du prophète furent émaillées de nombreuses batailles, principalement contre ses principaux adversaires issus de sa propre tribu de Quraysh. Après sa mort, selon certaines rares traditions, il aurait été empoisonné, sa succession déclencha une vague de violence sur laquelle je reviendrai plus loin. Sous le premier calife, Abou Bakr, eurent lieu les sanglantes guerres d'apostasie par lesquelles il empêcha les Arabes nouvellement convertis à retourner à leur religion ancestrale après la mort de l'apôtre d'Allah. Le temps du deuxième calife Omar fut celui des guerres des grandes conquêtes arabes. Il fut tué, lui aussi, apparemment par un esclave persan. Le troisième calife Osman fut emporté par ce qui est conventionnellement appelé la première grande guerre civile entre musulmans. Le court règne du quatrième, Ali, fut une suite ininterrompue de guerres civiles. Ali aussi fut assassiné par un ancien partisan devenu son ennemi. Le règne des Omeyyades fut une longue suite d'abominables répressions et massacres de leurs adversaires, notamment les Alides, les gens de Ali, qui finiront par s'appeler les chiites. L'infernal cycle des répressions sanglantes et des rébellions armées était ainsi déclenché pour bien longtemps. Le cas le plus significatif est le massacre de Hossein, petit-fils de Mohammed et fils de Ali, ainsi que la quasi-totalité de sa famille, seulement quelques décennies après la mort du prophète. J'y reviendrai. Les Omeyyades seront eux-mêmes renversés violemment par une grande révolution armée, celle des Abbasides. Sous le califat de ces derniers, la répression violente des adversaires, surtout des chiites, de toute obédience, encore une fois, se prolongera par intermittence pendant plusieurs siècles. L'installation accompagnée de violences d'une religion, notamment lors du processus complexe de son institutionnalisation ou de son imposition au peuple qui professe d'autres croyances, n'est évidemment pas propre à l'islam. Cependant, ce qui semble spécifique à l'islam, c'est d'abord la nature de cette violence, à savoir des guerres fratricides ayant entraîné la mort d'un nombre considérable parmi ses plus importants personnages historiques, et ensuite la longévité multiséculaire des conflits. Différents volets de cette problématique, l'articulation entre les conflits historiques des débuts de l'islam et l'élaboration de ses sources scripturaires, ont été étudiés à maintes reprises par Frédéric Chevalli jusqu'à Alfred Louis de Prémard, en passant par Gauthier, Caïtani, Djaït et d'autres. Or, ces nombreuses investigations, en œuvre depuis près d'un siècle et demi, sont fondées presque exclusivement sur des sources sunnites. Le chiisme, ses sources anciennes et sa représentation de l'histoire du Coran et de l'islam, étudiés depuis seulement quelques décennies par un nombre infime de chercheurs scientifiques, sont beaucoup moins exploités et demeurent encore insuffisamment connus. J'ai cherché, quant à moi, à combler modestement cette lacune en adoptant un nouvel angle d'approche des problématiques, en examinant quelques ouvrages chiites anciens de grande importance et pourtant restés injustement méconnus dans les milieux de la recherche. Deuxième partie, les textes étudiés. D'abord, le Kitab Sulaym ibn Qais ou le Kitab al-Sarifa, vous avez ce titre-là sur l'exemplaire. Procédons par ordre chronologique. Le premier de nos textes, c'est le livre de Sulaym, appelé aussi le livre de Sarifa, du nom de lieu de conseil qui élit Abou Bakr à la succession du prophète. Ce livre serait, selon la tradition chiite, l'œuvre de Sulaym, disciple du premier imam Ali. Le caractère pseudépigraphique de cet ouvrage est évident. On sait cependant que les strates les plus anciennes du livre constituent le plus ancien écrit chiite, voire islamique, et auraient été écrits par les proto-chiites de la ville irakienne de Koufa pendant les dernières années du règne de l'Omeyyad Hisham, c'est-à-dire vers 724-730. Très sommairement dit, le livre de Sulaym est le récit d'une conspiration longuement préparée dès avant la mort du prophète, visant à éliminer ce dernier et les membres de sa proche famille, à dénaturer sa religion afin d'accaparer le pouvoir et faire main basse sur les musulmans. Les principaux acteurs de cette conspiration diabolique ont été Abou Bakr et Omar, les deux futurs premiers califes. Ces comploteurs étaient entourés et soutenus par les anciens ennemis du prophète, écrasés à la bataille de Badr et maintenant opportunément convertis à la nouvelle religion. Il s'agissait surtout des plus puissants clans de Quraysh, notamment les Omeyyades. Ils réussirent à écarter du pouvoir avec une grande violence Ali, seul successeur légitime du prophète selon les chiites, à réprimer sa famille, surtout son épouse Fatima et ses partisans, et à constituer un puissant appareil de répression et de propagande à l'aide aussi bien de gouverneurs et de militaires que d'hommes de lettres, de juges ou encore de juristes théologiens. Ainsi, le livre de Solaïm, illustrant les opinions d'un puissant courant chiite, soutient que l'islam officiel majoritaire, mis sur pied violemment par les adversaires de Mohammed et de Ali, est une version profondément déformée de la religion mohammadienne. Selon cette vision historique du chiisme, l'islam majoritaire officiel, la religion du pouvoir califal et ses institutions, a été élaborée non pas par Mohammed, mais par ses ennemis, par les ennemis de sa famille et de ses descendants, seul guide légitime de la communauté des fidèles. Il ne s'agit donc pas de la religion de Mohammed, mais d'un véritable anti-islam imposé par la tyrannie et la tromperie. Deuxième texte, le Kitab al-Qira'at, ou At-Tanzil wa Tahrif, c'est-à-dire le livre des récitations coraniques ou le livre de la révélation et de la falsification d'Al-Sayyari, savant qui vécut au IIIe siècle de l'Égypte, 9e de l'ère commune, et semble avoir écrit son ouvrage dans la première moitié de ce siècle. Ce livre semble être la plus vieille monographie parvenue jusqu'à nous sur la délicate question de la falsification de la Vulgate haussmannienne et représente un puissant courant chiite ancien. Il appartient à un large mouvement englobant toutes sortes de tendances et de protestations contre l'imposition de la version officielle du Coran. À ce titre, il n'a cessé d'être cité par quelques-uns parmi les plus hautes autorités religieuses chiites, et ce jusqu'à l'époque moderne. Il s'agit d'un recueil de plus de 700 traditions, dont un grand nombre concerne la question de la falsification de la Vulgate officielle du Coran, et présente des variantes de lecture parfois considérables par rapport à celle-ci. Il contient ainsi plus de 250 citations coraniques censées provenir du codex de Ali et que nous ne trouvons pas dans le Coran connu de tous. Par ailleurs, selon les traditions de cet ouvrage, seule la recension coranique de Ali rapportait fidèlement le véritable texte des révélations divines faites au prophète. L'ouvrage d'Al-Sayyari contiendrait les citations de cette recension originelle. Dès leurs anciennes compilations de traditions, les chiites soutenaient que ce codex coranique de Ali a été gardé en secret par les imams descendants de ce dernier et fut emmené dans son occultation par le 12e imam, l'imam caché et le sauveur eschatologique des chiites duodécimains. Ce Coran, trois fois plus volumineux que le Coran connu de tous, ne sera révélé qu'à la fin des temps avec le retour du sauveur. Un nombre considérable de ces citations mentionne de façon explicite ou allusive aussi bien les personnages saints du chiisme que leurs adversaires, c'est-à-dire les membres de la famille prophétique, notamment Mohammed, Ali, qui est le plus fréquemment cité, Fatima et les fils de ces deux derniers, Hassan et Hussein, et les imams de leur descendance d'une part, les trois premiers califes ou encore les Omeyyades d'autre part. Le recueil de la Sayyari appartient à un vaste courant théologico-politique selon lequel une des conséquences les plus immédiates de l'usurpation du pouvoir par les adversaires du prophète et de sa famille a été la falsification du vrai Coran. Il ne pouvait en être autrement puisque ce Coran contenait explicitement ou par des allusions suffisamment claires la mention des noms des membres de la famille prophétique et de leurs ennemis. Or, ces ennemis étaient désormais au pouvoir. Ils étaient donc obligés de supprimer ces passages compromettants et d'en altérer d'autres afin de pouvoir cacher leurs méfaits et justifier leurs actions. Troisième texte, le tafsir, c'est-à-dire les commentaires coraniques d'Al-Hibari. Comme on vient de le voir, selon les premiers commentaires coraniques chiites, les principaux éléments censurés du Coran étaient surtout des noms de personnes, notamment ceux des membres de la famille du prophète et leurs ennemis. Pour les tenants de la thèse de la falsification, ces amputations de l'écriture l'auraient forcément rendu inintelligible. Que peut-on comprendre d'un texte spécialement révélé au sujet de tel ou tel personnage si on y enlève les noms de ces derniers? Et puis, quand on enlève des éléments aussi essentiels, on déstructure complètement le texte qui doit être réécrit au moins par endroits. C'est sans doute de cette époque, à savoir le IIIe siècle de l'Égypte, 9e de l'ère commune, ou même peut-être un peu plus tôt, que date le couple doctrinal chiite selon lequel le Coran est certes un guide, mais un guide muet, silencieux. Et parallèlement, l'imam, le guide, est un Coran, un livre parlant. À cause de la falsification, le livre de Dieu est devenu un guide silencieux. Imam Samet. Pour retrouver sa parole, il a désormais besoin de l'enseignement de vrais initiés, les imams, dont la personne ou l'enseignement sont dits être le Coran parlant, Qur'an natiq en arabe. Les deux expressions désignent donc respectivement le Coran et le Hadith, les deux sources scripturaires de l'islam, en y introduisant la problématique de l'intelligibilité de l'écriture et donc de la nécessité de l'herméneutique, de l'exégèse comme moyen de compréhension. Selon bon nombre de traditions, c'est la falsification qui a rendu le livre incompréhensible et donc rendu nécessaire son herméneutique qui a pour objectif de restituer son sens perdu. Dans le chiisme, l'imam est l'exégète par excellence et ses enseignements, ses traditions, se veulent avant tout explicitation, exégèse herméneutique ou interprétation spirituelle. Ce sont bien les imams et leurs enseignements qui donnent sa parole au Coran, rendu muet par l'altération. Avec le temps, cette thèse radicale, fondée sur celle de la falsification, cédera progressivement la place à la doctrine selon laquelle le Coran est en soi, dans sa version originelle, un texte codé et à plusieurs niveaux, et qui a par conséquent besoin de l'herméneutique de l'imam pour être compris adéquatement. Je vais y revenir. Après cette introduction, passons à notre troisième texte. Al-Hibari, mort en 286-899, aurait été chiite de tendance zaydite. Cependant, d'autres chiites n'hésitent pas à l'exploiter. Son commentaire coranique et son complément, écrit dans la seconde moitié du IIIe siècle, contiennent 100 traditions et concernent des allusions présumées ou les significations cachées du Coran concernant Ali, les membres de sa famille, ses fidèles et ses adversaires. Selon cet ouvrage, divers versets coraniques sont considérés comme des codes désignant des personnes ou des groupes historiques. Pour Al-Hibari, l'exégèse dévoile l'esprit du Coran, son sens caché, en identifiant les personnages au sujet desquels la parole a été révélée, notamment le prophète, les imams et leurs fidèles d'une part, les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les adversaires des imams et leurs partisans d'autre part. Le fondement de la foi consiste par conséquent à reconnaître les alliés de Dieu et leurs adversaires qui sont les adversaires de Dieu. D'où l'importance considérable du genre littéraire que l'on pourrait appeler les commentaires coraniques personnalisés dans le chiisme. Selon les auteurs de ces compilations, la principale falsification du Coran effectuée par les adversaires de la famille prophétique consiste en la suppression des noms des personnes du texte de la révélation, texte qui devient ainsi difficilement compréhensible. Les enseignements exégétiques des imams ont pour principale tâche de restituer ces noms, de combler les lacunes causées par la censure avec les personnes historiques au sujet desquelles les versets ont été révélés. Ainsi, ces versets redeviennent parfaitement compréhensibles. Récapitulons. Dans cette phase, pour les chiites, la nécessité de l'exégèse ésotérique est justifiée par une évolution historique précise. Toute sa vie, le prophète a dû affronter l'adversité de ses ennemis quraïchites. Le Coran évoque très souvent ces conflits. Passés opportunément à l'islam, ces mêmes ennemis récupérèrent par complot, dès après le décès du prophète, l'autorité et le pouvoir de ce dernier, en écartant violemment du califat son seul successeur légitime, Ali. Dans ces conditions, une des premières choses à faire par le pouvoir, c'était de falsifier les passages compromettants du Coran, où étaient mentionnés nommément les amis et les ennemis de la nouvelle religion, en enlevant surtout ces noms-là. Rendu ainsi incompréhensible, le Coran exigeait une exégèse, remplaçant ces personnes dans leur contexte coranique initial, afin de faire découvrir le sens véritable des versets. Cette exégèse, réprimée et interdite par les hommes puissants du nouvel État, ne pouvait circuler que de manière secrète parmi les initiés opposant au pouvoir. Elle constituerait ainsi la forme la plus ancienne de l'exégèse ésotérique dans le chiisme. Quatrième source, le Kitab Basair al-Darajat, Tassafar al-Qummi. Au IIIe, IXe siècle, à l'époque de l'intense activité des auteurs de commentaires coraniques, se développe parallèlement un corpus de traditions d'une autre nature, de type gnostique, mystique et initiatique. Ce genre de tradition spirituelle et intellectuelle, très répandue dans tout l'Orient méditerranéen depuis l'Antiquité tardive, connaîtra une grande fortune dans bon nombre de courants de pensée de l'islam, mais il semble maintenant acquis qu'il a atteint cette religion grâce aux différentes mouvances chiites, dont certaines extrêmement anciennes. Notre quatrième et dernier texte, le livre des perceptions des degrés d'As-Safar al-Rumi, mort en 902, est sans doute pour ceux qui est la période ancienne la source chiite existante la plus importante de la transmission de ce genre de tradition gnostique. L'existence d'éléments de type mystique et ésotérique semble très ancienne dans le chiisme, mais c'est surtout à partir de la seconde moitié du IXe siècle et tout le long du suivant que se développe considérablement une littérature aussi riche que variée de nature initiatique et gnostique avec une forte composante messianique. L'essor de ce corpus, qui atteint très vite des dimensions considérables, serait dû à un double constat d'échec chez les chiites. Sur le plan historique, le chiisme est devenu minoritaire, marginalisé, persécuté souvent avec une extrême violence. À quelques rares exceptions près, on peut considérer qu'au cours des trois premiers siècles de l'islam, les adeptes des imams, les chiites, auront été définitivement vaincus par ceux de l'islam dominant que l'on finira par appeler sunnisme. Ensuite, sur le plan religieux, le chiisme est ostracisé, isolé, ses doctrines neutralisées par un immense flot ininterrompu de traditions sunnites, dans le sens où, en réaction à pratiquement chaque croyance chiite, glorifiant Ali, ses descendants et ses partisans, sont élaborées des traditions louant les adversaires de ces derniers ou bien les récupérant eux-mêmes pour les besoins de la cause. Comme dans beaucoup d'autres traditions religieuses, ce que l'on appelle l'orthodoxie a été formé en réaction aux courants plus anciens qui progressivement seront considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques. Dans ce conflit des doctrines, il s'agit en quelque sorte de la parole des sunnites bénéficiant du soutien du pouvoir politique souvent répressif contre celle des chiites, la minorité vaincue. Face à cette situation, vont prendre forme des doctrines ésotériques complexes de type gnostique développées autour d'une mystique de la figure de l'imam. Progressivement, la proclamation des droits de Ali et de ses descendants, ainsi que la dénonciation de leurs adversaires, acquiert une perspective métaphysique et cosmique. Les fidèles sont ainsi invités à atteindre la connaissance transformatrice, la sagesse salvatrice, en surmontant la tragédie de l'histoire. Dans cette religion gnostique, l'imam historique est le maître des enseignements secrets et l'imam spirituel cosmique, homme divin, le contenu ultime de ces enseignements. L'ouvrage d'As-Saffar, écrit comme le livre d'Al-Hibari dans la seconde moitié du 3e siècle, est l'illustration parfaite de cette évolution. Il s'agit d'un volumineux recueil de plus de 1800 traditions, constituant une sorte de monographie sur les divers aspects de la science initiatique des imams ou ce que le compilateur a jugé être tel. Même une lecture rapide de sa table des matières montre clairement qu'il contient en effet, adapté évidemment à l'islam chiite, pratiquement toutes les caractéristiques des doctrines gnostiques teintées de néoplatonisme de l'Antiquité tardive, telles qu'elles ont été magistralement synthétisées par Kurt Rodolphe. Vision dualiste du monde, théâtre de la lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, c'est-à-dire les amis de Dieu, les sages initiateurs et leurs fidèles d'une part, leurs adversaires de l'autre. Doctrine des émanations de Dieu, donnant naissance à des plérums et des hypostases, création des entités préexistentielles des imams à partir de la lumière divine, mais aussi à leurs adversaires maléfiques, les entités préexistentielles des forces de l'ignorance. Vision pessimiste du monde et de l'homme, la majorité des gens sont volontairement ou involontairement du côté de l'ignorance. L'homme est un être hybride, une parcelle de lumière enfermée dans les ténèbres de la matière et qui ne peut être libérée que par la connaissance. Cette gnose salvatrice est portée et transmise par un éternel être de lumière qui s'incarne pour sauver les hommes capables de le reconnaître, le Christ pour les gnostiques, l'imam pour les chiites. Ce guide, détenteur de la connaissance, bénéficie des résultats de celle-ci, à savoir les pouvoirs thaumaturgiques. Le salut intégral se réalise dans les temps eschatologiques, lorsque toutes les parcelles de lumière emprisonnées seront libérées à travers les nombreux cycles de l'histoire. La connaissance est cachée dans le sens ésotérique des Écritures, couverte par le sens littéral. L'exégèse spirituelle est donc indispensable pour l'intelligence adéquate du Livre Saint. L'absence de sources directes aux deux premiers siècles de l'islam rend difficile l'étude de la filiation littéraire entre les mouvements gnostiques et les différentes branches du proto-chiisme et du chiisme. Cependant, de nombreuses études, dont la plus complète reste l'ouvrage monographique classique de Hans Heim, « Die islamische Gnosis, die extreme Shia und die Alawiten », ont pu montrer que des courants religieux de type gnostique, notamment ceux influencés ou restés fidèles aux adeptes de Mani, de Bardesan ou de Marcion, étaient restés actifs en terre d'islam jusqu'au 3e et 4e siècle de l'Égypte, adeptes parfois se convertissant à la nouvelle religion arabe avec tout leur bagage intellectuel et spirituel. Il est intéressant de noter que les régions de prédilection de ces mouvements étaient presque toutes situées en Irak, surtout les cités de Koufa, de Basra et de Hira, c'est-à-dire la terre natale du chiisme. On peut désormais raisonnablement déduire que les enseignements de type gnostique, se transmettant surtout de manière initiatique, c'est-à-dire principalement orale, avaient cours dès l'imamat des imams Muhammad al-Baqir et son fils Ja'far al-Sadr, c'est-à-dire aux confins des 1er et 2e siècles de l'Égypte, 7e et 8e de l'ère commune. Notre quatrième source semble indiquer que la transmission écrite et méthodique de ces enseignements s'est surtout développée à partir de la seconde moitié du 3e siècle. La séquence de la perception chiite des choses, schématisée à l'extrême, serait donc la suivante. À la mort du prophète, ses adversaires écartent Ali, son seul successeur légitime, et prennent le pouvoir. Ils élaborent avec perfidie une religion anti-mohammadienne, c'est le sujet du livre de Soleim, soutenue par une version falsifiée du Coran, c'est l'ouvrage, deuxième ouvrage, As-Sayyari, qu'il présente comme étant l'islam officiel. Persécutés, les imams chiites tentent par une œuvre herméneutique de sauver la véritable religion de Mohammed en initiant une minorité de fidèles au véritable contenu de la révélation coranique. Confrontés à la réaction violente de leurs puissants adversaires, les guides passent à une dimension métaphysique et mystique dans leurs revendications en élaborant une religion de l'imam largement teintée de gnose et de néoplatonisme. C'est le sujet de notre quatrième texte. Troisième et dernière partie, prise en compte nécessaire des sources chiites. Considérant la version officielle du Coran comme étant altérée et falsifiée, était loin d'être limitée aux chiites. Des personnages hautement respectés par les sunnites partageaient avec des variantes les mêmes opinions, et celles-ci sont relatées par certaines sources sunnites aussi. Contentons-nous des exemples d'Ibn Mas'ud, selon lequel la première et les deux dernières sourates du Coran n'auraient pas fait partie du Coran et auraient été des prières récitées par le prophète. Ou encore les deux courtes sourates Al-Khal et Al-Haft, qui auraient fait partie du codex d'Obaï et qui finalement n'ont pas été retenues dans la Vulgate officielle. Pour toutes ces raisons, cette version officielle, probablement établie à la fin du 1er siècle sous le califat de Abdelmalek, semble avoir mis plusieurs siècles pour être imposée à tous les musulmans. La recherche historio-philologique sur le texte de l'histoire et l'histoire de la rédaction du Coran a pu établir de son côté qu'effectivement le texte définitif du Coran que l'on connaît serait fort probablement le résultat d'un complexe travail rédactionnel collectif. Selon des études de plus en plus nombreuses, l'établissement de cette vulgate daterait du califat de l'Omeyyade Abdelmalek, donc 65 à 86 de l'Égypte, et aurait été effectuée sous son contrôle. Cependant, jusqu'au 3e et 4e siècle, d'autres recensions coraniques, parfois très différentes dans leur forme et leur contenu, circulaient, elles aussi, sur les terres d'islam, jusqu'à ce que le Coran califal fût imposé à tous, y compris à la majorité des chiites. À cette époque, avec l'établissement de l'orthodoxie sunnite sous le califat abbasside, dont un des dogmes principaux a été le caractère divin et éternel du Coran officiel, il devenait extrêmement périlleux de mettre en doute l'intégrité de celui-ci. Seule une minorité parmi les chiites continua à soutenir discrètement la thèse de la falsification, et ce, jusqu'à notre époque. Juste après la mort du prophète, les Arabes, d'habiles commerçants, étaient devenus de grands conquérants, disposant au bout de quelques courtes années des pouvoirs et des fortunes absolument gigantesques. Parmi ces richissimes hommes de pouvoir, quelques-uns semblent avoir réuni en leur personne plusieurs éléments déterminants pour ce qui est les guerres civiles, ainsi que la problématique de la recension définitive du Coran. Synthétisant les travaux antérieurs et continuant leur méthode, notamment ceux de Paul Casanova et Alphonse Mingana, le regretté Alfred-Louis de Prémard, dans les fondations de l'islam, dégage plus particulièrement les portraits de trois personnalités de premier ordre. D'abord, Obaidallah ibn Ziyad, vous avez ces noms-là en bas de l'exemplier, célèbre et cruel gouverneur omeyyade de l'Irak, petit-fils par adoption d'Abu Soufiane, appartenant donc à la puissante famille des Omeyyades, il était un de ces riches commerçants devenus un influent conquérant. Après la conquête de la Transoxiane, il occupa le poste stratégique du gouverneur d'Irak sous les califats de Moawiyah et de Yazid. Or, Ibn Dawood écrit dans son Kitab al-Masahif que ce gouverneur, Ubaydullah ibn Ziyad, était intervenu dans l'établissement du texte coranique. Il avait notamment chargé son secrétaire, Yazid ibn Hormoz, d'y apporter de nombreuses suppressions et additions. Le deuxième personnage est encore un gouverneur de l'Irak omeyyade, le nom moins célèbre Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il devint gouverneur sous le règne d'Abdelmalek. Ce fut à cette époque que se manifestèrent les premiers courants de réflexion dogmatique après les conquêtes, courants tous profondément concernés par le problème de légitimité politico-religieuse. Durant cette période d'incessante guerre civile, l'enjeu des textes scripturaires aurait pris une importance capitale. Al-Hajjaj fut le vainqueur du calife rival Ibn Zubayr qui se trouvait à la Mecque. Ainsi, après plus de 10 ans, le pouvoir califal retrouvait son unité. Al-Hajjaj était lui aussi homme de lettres, un des grands connaisseurs de la langue arabe. Selon de nombreuses sources, il avait eu lui aussi des interventions massives sur le texte coranique et avait établi sa propre recension coranique dont il aurait envoyé un exemplaire dans chacune des capitales des grandes provinces de l'Empire islamique pour l'officialiser aux dépens des recensions antérieures qu'il fit d'ailleurs détruire en Irak. Le troisième personnage est le calife Abdelmalek lui-même. L'enquête historiographique de Prémard, tout comme avant lui l'étude de Hotting sur l'histoire omeyyade ou celle de Yehuda Nevo sur les inscriptions de l'époque, montre que le temps de Abdelmalek aurait été décisif dans l'élaboration de l'islam institutionnel et doctrinal. En ce qui concerne la constitution définitive du texte coranique, de plus en plus d'études tendent à accepter le rôle capital de ce calife dans l'élaboration de ce qui est appelé la Vulgate officielle. Ce que ne relève pas de Prémar, ni d'ailleurs personne d'autre, c'est que ces trois personnages de premier ordre d'importance, aussi bien dans les guerres civiles entre musulmans que dans l'histoire de l'élaboration du Coran, partagent entre eux un trait commun remarquable, leur haine implacable envers les chiites et leur grande violence à leur égard. Obeidallah ibn Ziyad est même connu pour avoir écrasé férocement les révoltes anti-Omeyyades, surtout chiites, et pour avoir notamment massacré l'imam Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète, et la quasi-totalité de sa famille à Karbala. Ce trait commun rend encore plus plausible les déclarations chiites selon lesquelles le Coran officiel est une version censurée et falsifiée de la révélation, où les noms des amis et des ennemis du prophète ont été supprimés, car ce Coran est tout simplement l'œuvre des ennemis du prophète. L'islam primitif doit en outre à Abdelmalek quelques décisions capitales. D'abord, l'arabisation de la langue de l'administration, jusque-là assurée par les anciens fonctionnaires byzantins et ou iraniens dans leurs langues respectives. Deuxièmement, l'officialisation du statut des protégés, des immis, juifs, chrétiens et zoroastriens, avec l'application de l'impôt de capitation, jizya, comme marque de leur sujétion au pouvoir islamique et leur donnant le droit d'être protégés par celui-ci. Enfin, la création d'une monnaie islamique propre, sans représentation figurée et frappée uniquement de formules religieuses en arabe. Dans ce contexte, qui est celui de la fondation de l'islam en tant que religion de l'Empire, le calife et d'autres hommes de pouvoir qui l'entouraient ne pouvaient pas ne pas être attentifs à cet aspect fondamental du pouvoir qui est la maîtrise des croyances et le fait que celle-ci ne peut être effective qu'à travers la maîtrise et donc la codification des écritures, surtout dans une société où les mouvements politico-religieux dissidents sont très nombreux. Un livre scripturaire unique, indépendant des écritures antérieures, en l'occurrence celles des juifs et des chrétiens, codifié selon les dogmes étatiques, est la meilleure garantie de la sécurité doctrinale et donc politique. Il est intéressant de noter que la seconde source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith, semble lui aussi avoir commencé à prendre son caractère systématique à partir de l'époque de Abdelmalek. Ainsi, l'initiative de constitution d'un codex coranique officiel, commencé peut-être sous le califat de Osman, semble avoir trouvé son achèvement pendant le règne de Abdelmalek. Entre-temps, avec les conquêtes et la volonté des dirigeants musulmans de distinguer clairement leur religion du judaïsme et du christianisme, un progressif travail rédactionnel avec composition, réécriture, stylisation, élaboration, rectification aurait eu lieu. La tradition islamique, dans son immense majorité, insiste sur la très grande ancienneté de la mise en place de la version officielle du Coran, initiative commencée dès Abou Bakr Omar et finalisée par Osman. Puisqu'elle sait pertinemment que plus cette mise en place est tardive, plus le risque de falsification est grand. Cependant, malgré toutes les tentatives d'occulter les divergences de la part des auteurs orthodoxes, l'examen des hésitations ou des contradictions que charrient les sources montre clairement que dès le départ, un grand mouvement de protestation prit forme contre la version officielle du Coran. En effet, dans une société où les différentes recensions auraient été des instruments de légitimation de divers groupes politico-religieux, la version officielle aurait mis plusieurs siècles pour être unanimement acceptée par tous les musulmans. Pendant près de 3 siècles et demi, plusieurs Corans, différents dans leur forme et leur contenu, auraient été en circulation sur les terres d'islam avant que la version officielle soit imposée à tous par le pouvoir califal abbasside. Il est cependant à noter que parmi les chiites, il y a toujours eu des courants plus ou moins cachés qui ont continué à croire en la thèse de la falsification de la Vulgate, et cela jusqu'à nos jours. Je termine. L'histoire des premiers siècles de l'islam et au sein de cette histoire, l'articulation entre les guerres civiles et l'élaboration du corpus coranique reste encore insuffisamment connue et présente de nombreuses zones d'ombre. C'est pourquoi de nouveaux éclairages et de nouvelles pistes de recherche dans ces domaines peuvent encore s'avérer de la plus grande utilité. L'étude des sources chiites anciennes semble de plus en plus indispensable dans cette perspective. Or, à quelques rares et récentes exceptions près, ces sources n'ont pas été exploitées comme elles le méritent. Les islamologues d'Ignaz Goldzir et de Joseph Schacht à Michael Cook, à travers des études pertinentes étalées sur plus d'un siècle, ont montré combien les sources sunnites peuvent être historiquement peu crédibles, tout au moins dans leur discours explicite, profondément orientés car cherchant à établir les preuves de l'orthodoxie et de l'orthopraxie sunnite. Dans cette dialectique opposant la religion droite à l'hétérodoxie, les sources chiites sont sans doute tout aussi orientées, mais pas nécessairement plus. Elles présentent en outre l'avantage d'être la voix de la faction finalement vaincue et paraissent à ce titre d'autant plus précieuses qu'elles rapportent souvent des informations censurées ou déformées par les vainqueurs. C'est donc de l'examen comparatif et simultané des deux catégories de sources que pourraient jaillir des lueurs d'une réalité historique encore énigmatique sur plus d'un point. La négligence des écrits chiites paraît encore plus regrettable lorsque l'on s'aperçoit que sur certaines questions fondamentales touchant l'histoire de l'islam naissant et la genèse de ses sources scripturaires, ils peuvent apporter des réponses à des questions anciennes des orientalistes. Par exemple, celle concernant l'absence des contemporains du prophète dans le Coran ou sur la structure si fragmentée et si désarmante du Coran. Par ailleurs, les écrits chiites anciens sont parfois corroborés par un grand nombre de recherches modernes touchant les domaines historiques et philologiques sur des questions plus ou moins occultées ou déformées par les sources sunnites. L'existence de conflits violents entre les personnages les plus importants de l'islam naissant et leur prolongement jusqu'à la basse époque abbasside. Le caractère particulièrement problématique de l'élaboration, de la transmission et de la réception du texte coranique. La nature politique de l'élaboration d'une immense part du corpus de hadith, où chaque parti théologico-politique tentait de forger des traditions dites prophétiques, justifiant sa propre cause. Je parle de l'étude des premiers temps de l'islam et celle du contenu et de l'histoire du Coran. Mais il est tout aussi évident que les sources chiites anciennes sont également capitales pour mieux comprendre les origines de l'orage qui a depuis toujours marqué les relations entre sunnites et chiites, orage dont ces derniers ont toujours été très majoritairement victimes. Je vous remercie.